Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez une histoire qui a fait jaser dans l'Antiquité. Hein.
Oui, en effet, mais alors surtout, moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que il ne fallait pas avoir peur d'avoir une vie de famille compliquée, parce que la vie de famille de Néron, elle a déjà été évoquée par vous-même, Stéphane, oui, dans notre émission, et donc nos auditeurs, sans doute, ont retenu que Néron a eu 3 épouses successives. Alors déjà, voilà, Octavie, Poppée, Messaline, donc 3 femmes, mais il va avoir également 3 maris. Donc, de là, de se compliquer la vie.
Bon. Je ne savais même pas qu'il y en avait eu un.
Ah ben si, il en a eu 3. Alors, vous savez qu'il s'est débarrassé de sa première femme, qui était aussi sa demi-sœur. Elle s'appelait Octavie. Après Octavie, il épouse sa maîtresse, Poppée. En cadeau de mariage, il lui offre la tête d'Octavie. C'est quand même une attention délicate pour sa nouvelle épousée. Mais en 65, dans un mouvement de colère, comme Néron en a de temps en temps, eh ben il tue aussi Poppée en la rouant de coups de pied dans le ventre alors qu'elle est enceinte. Bon, alors c'est ça, c'est très chic. C'est un événement que certains historiens contemporains contestent. Hein, je m'empresse de le préciser. Mais enfin, à ce stade, disons qu'il a déjà tué ses 2 premières femmes. Et donc la troisième arrive, Messaline, en 66, mais il s'en détourne rapidement parce que, voyez-vous, finalement, Néron, derrière, c'est le côté brut, et bien, ben, palpite un petit cœur sentimental et il tombe amoureux d'un certain Sporus. Alors pourquoi Sporus? Parce que ce garçon d'une très grande beauté ressemble à Poppée. Vous voyez, comme il est tendre finalement.
Il a
tué Poppée
alors.
À coup de. Ben oui, voilà, il a tué Poppée à coup de pied dans le ventre, mais là il est ému, et en voyant Sporus qui ressemble à Poppée, bon ben il se dit, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, pourtant j'aimais bien Poppée. Et pour que la ressemblance soit plus grande encore, eh ben il fait castrer Sporus.
Oh hein. Non.
Ben oui, c'est comme ça, c'est simple.
Hein.
Ben elle ressemble vraiment à une femme. Donc il la fait castrer. Sporus, il l'épouse au cours d'un voyage en Grèce. Et puis quand il rentre à Rome, il donne des fêtes grandioses pour célébrer ce mariage. Et dès lors, il s'affiche avec Sporus, vêtu des atours réservés aux impératrices. Et désormais, tout le monde à Rome doit s'adresser à Sporus en lui disant « Madame, impératrice ou maîtresse ».
Oui, mais Néron, Sporus n'était pas marié à Néron en tant qu'homme,
oui,
mais en tant que femme.
Ah ben, en tant que femme, enfin en tant qu'ancien homme castré au passage dans la bataille.
Il n'y avait pas de barbe au menton. Hein.
Oui, alors là, évidemment, puis alors une fois qu'on vous a fait quick, comme disaient les castrats de la chapelle Sixtine, il ne se passe plus grand-chose. Alors, Sporus, de toute façon, n'est pas le seul homme avec lequel Néron se livrera à une parodie de mariage, puisque toujours d'après Suétone et Tacite, il aurait eu 2 autres maris nommés Doryphore et Pythagoras. On ne rit pas. Mais Pythagoras jouait auprès de lui le rôle de mari, là où Sporus était son épouse. Hein. Comme ça, là, on a toute la gamme complète de tous les
vécu,
genres. Et il a tout vécu. Alors, vrai ou faux, bon, ça figure dans les écrits de Suétone et Dion Cassius, où il est largement question des diverses perversions sexuelles de Néron. Vous savez, il est accusé en vrac d'inceste avec sa mère, de viol d'une vestale. Enfin, on ne prête qu'aux riches. Mais en tout cas, Néron devait beaucoup tenir à Sporus, parce que c'est à lui qu'il fait appel pour les lamentations rituelles avant de se suicider. Donc ça, c'est quand même la marque d'une affection particulière. Et Sporus, surtout, devait être d'une très, très grande beauté, puisqu'après la mort de Néron, il se retrouve dans le lit du préfet Nymphidius, puis à la mort de Nymphidius, il devient l'amant de l'empereur Othon. Donc vous voyez, Néron, Nymphidius, Othon, tous ont été amoureux de Sporus. Donc Sporus devait vraiment être absolument irrésistible. Et Sporus avait offert à Néron...
Il ne devait pas prendre beaucoup de plaisir.
Ah bah lui, non, bah, c'était pas la question. Hein. Quand vous êtes dans le lit d'un empereur, c'est pas vous qui êtes censé y obtenir les satisfactions divines qui en sont attendues. Vous êtes là pour comme instrument du plaisir de celui que vous servez, naturellement. En tout cas, Sporus avait offert à Néron...
Tout ça est très naturel, Clémentine. C'est ça qui est vraiment fascinant avec vous. On est vraiment transporté dans le temps.
Elle nous a décrit quand même des violences conjugales, d'une rare violence,
non,
avec
mais écoutez,
un homme,
non, mais,
Néron,
mais, messieurs,
qui,
moi, je
tue 3
je vous en entraîne dans une époque. Ah, c'est comme c'est si on parlait des admirables avec, avec César et Cléopâtre et Marc-Antoine. Ils ont des esclaves sexuels. Et c'est comme ça. Et je crois que c'est Tibère qui avait ses petits poissons dans sa piscine. Bon, on n'était pas là pour savoir si celui qui était l'instrument de son propre plaisir en trouvait aussi. Ça n'était pas la question, ça, c'est sûr. En tout cas, Sporus, il a servi à tous les empereurs suivants, si je puis me permettre. Et Vitellius voulait le livrer au gladiateur pour lui faire interpréter dans l'arène le rôle de Proserpine, c'est-à-dire cette femme qui est raptée par les dieux. Et Sporus s'est suicidé pour éviter cette humiliation. Mais il n'avait probablement pas 20 ans, Sporus, à ce moment-là. Et à sa suite, un autre empereur romain va se marier également avec un homme, c'est Héliogabale. Il épouse d'abord un bel esclave blond et puis un athlète nommé Zoticus, figurez-vous. Et ça ne s'arrête pas là, parce que vous voyez, on a toujours l'impression que notre époque a tout inventé, mais dans le christianisme primitif aussi, il y avait des relations homosexuelles autorisées. On a trouvé au monastère de Sainte-Catherine dans le mont Sinaï une icône qui représente deux saints en robe. Il s'agit de Serge et Bacchus, deux soldats romains morts en martyr en 303. Et entre les deux, il y a le traditionnel pronobus romain, c'est-à-dire le témoin de mariage, qui est représenté sous les traits de Jésus. Donc il y a un historien américain et militant LGBT qui a interprété cette relation comme étant ce qu'on appelle une adelphopoia, c'est-à-dire une sorte de mariage homosexuel, donc une preuve que l'Église orthodoxe n'était pas toujours hostile aux relations et mariages homosexuels. Alors bon, et la preuve qu'il donne, cet historien, c'est que les deux auréoles, retenez ça, les deux auréoles qui couronnent ces deux hommes sont entrelacées, non divisées, et que ça indique l'amour physique. Bon, écoutez, vrai ou pas, en tout cas, cette icône des saints Serge et Bacchus, elle est devenue un symbole très populaire dans la communauté chrétienne LGBT. Et tout ça pour dire, en conclusion, que l'argument de modernité concernant la famille romaine, la famille actuelle, pardon, ça me fait bien rigoler. Allez dire ça à Néron, Sporus, Héliogabale et Zoticus et Serge et Bacchus, et ils vous enverront vous faire cuire un œuf.
Chez les Grecs. Merci beaucoup, Clémentine.
Merci, Clémentine. Incroyable. Merci beaucoup. Vous restez avec